les ensembles lapidaires, ce sont les pierres qui ont appartenu à un édifice, généralement des pierres moulurées ou sculptées, qui, du fait de l'histoire de l'édifice, en ont été dissociées. Alors ça peut être par exemple un édifice qui est tombé en ruine, un édifice qui a été bombardé, démantelé, et alors ces pierres sont dès lors plus en œuvre. Alors l'intérêt de ces ensembles de pierres, c'est que lorsqu'elles sont dans l'édifice ou lorsqu'elles constituent l'édifice, eh bien on n'en voit qu'une seule face, voire deux faces, alors que lorsqu'elles sont dissociées, eh bien on peut voir toutes les faces, et notamment celles qui généralement sont cachées. Et sur ces faces cachées, eh bien on peut voir des traces d'outils qui sont effacées pour les faces visibles. On peut voir même des traces de taille primaire, c'est-à-dire en fait des tailles qu'on fait en carrière ou qu'on fait pour dégrossir les blocs. On voit également tous les trucs et astuces qu'ont utilisé les constructeurs pour pouvoir penser leur gaine architecturale. On peut voir des marques de paiement sur ces pierres. On peut les manipuler dans tous les sens. On peut aussi les mesurer comme on l'entend. Donc elles fournissent un ensemble d'informations qui sont autrement inaccessibles.
D'accord, donc on étudie les deux en fait, on étudie l'architecture, oui, et les ensembles lapidaires.
Et ces ensembles lapidaires généralement offrent énormément d'informations sur les techniques de construction, sur les savoir-faire des maîtres maçons, des artisans, des tailleurs. Et comme généralement l'histoire de ces artisans est mal connue car mal documentée par les textes, généralement, les textes médiévaux ou les textes antiques parlent des riches, on va dire des membres de la haute société, pas tellement des artisans, notamment des métiers. Et donc, ce sont des sources historiques essentielles pour retracer l'histoire des métiers et des savoir-faire.
Et il y en a quand même suffisamment, parce qu'ils n'ont pas tous été démantelés
Et ça dépend des régions. Ça dépend des régions, ça dépend des époques. En Bretagne, il y a quelques très beaux ensembles. L'abbaye de Beauport, par exemple, c'est un très bel ensemble. Il y a toutes les pierres qui appartiennent à des cathédrales qui, à un moment, sont usées. Elles sont déposées, elles sont remplacées, mais sont conservées quand même. Il y a des régions où les bombardements, notamment durant la Première Guerre mondiale, je pense à la Picardie, ont été tels que de nombreux édifices ont été détruits. Mais après la guerre, les pierres ont été mises de côté. Et puis finalement, il n'y a pas eu de projet de reconstruction identique. Et donc ces pierres ont été conservées. Alors, pour dire vrai, ces ensembles lapidaires ne sont pas intégralement inventoriés. Et donc on peut encore en retrouver. Et puis alors, vous savez, il y a aussi tous ces édifices qui ont été démantelés à la Révolution. Avant le développement de la machine à outrance, tailler la pierre, ça demandait beaucoup de travail. Et donc, on réemployait beaucoup. C'est aussi un contexte dans lequel on peut retrouver des vieilles pierres. Il y en a pas mal.
Et là, alors pour la rencontre du 4 avril, il s'agit du granit. Enfin, c'est apparemment la vedette de la rencontre. Je pose quand même la question, pourquoi ?
Parce que c'est une roche qui est extrêmement répandue. C'est une roche qui a des particularités très particulières. Elle est souvent très lourde, elle est grenue, et donc elle a un aspect particulier. Et donc les caractéristiques de cette roche ont forcément de nombreuses conséquences sur la pratique du métier et sur l'œuvre en tant que telle, sur le résultat final. Et il s'agit pour nous d'essayer de mettre en commun nos expériences, des sites qu'on a pu étudier, pour essayer de comprendre exactement quelle est l'influence de la nature de cette roche sur l'art de telle ou telle région à laquelle elle est présente. Je vous prendrai un exemple. Généralement, en Bretagne, les églises sont relativement basses par rapport à celles d'autres régions. Mais dans le cas où elles sont construites en granit, la roche est parfois deux fois plus lourde, à une masse volumique deux fois plus grande que les pierres légères, par exemple, du Val-de-Loire ou de Picardie. Alors, parfois, quand il faut réaliser avec une roche très lourde des édifices qui sont très hauts, il y a un moment où ça risque de devenir un peu compliqué. En Bretagne, par exemple, la plupart des églises ne sont pas voûtées, alors qu'il y a d'autres régions où quasiment toutes les églises sont voûtées. On peut se demander si le poids de la roche n'est pas un facteur qui décourage ou qui limite l'emploi de la voûte à des édifices très prestigieux. On peut se demander aussi si, par exemple, le fait que la sculpture romane bretonne ou d'autres régions, le fait que le style soit souvent schématique n'est pas dû aux matériaux. Vous voyez ? Et pour pouvoir faire de tels constats, il faut pouvoir mettre en commun des expériences.
Et depuis quand est-ce qu'il est utilisé en construction, on va dire, le granit ?
Ah bah depuis très longtemps. D'abord depuis qu'il y a des constructions. Si on prend notre région, au moins l'époque néolithique.
Vous remontez pas aussi loin, ceci dit. Vous remontez à la Gaule romaine, ce qui est déjà pas mal. Donc là, c'était un matériau couramment employé dans l'Ouest ?
Ah oui, il y a un principe qui est souvent respecté. C'est que pour des raisons très pratiques de transport, de masse et de coût du transport, on utilise souvent dans la construction la roche vernaculaire, c'est-à-dire la roche la plus proche, à partir du moment où elle est appropriée. Et donc, c'est pour ça que s'intéresser à la géologie est essentiel lorsque l'on fait des études d'architecture. Ce qui donne généralement la couleur architecturale d'un terroir, c'est d'abord le matériau utilisé, c'est-à-dire le matériau du sous-sol, souvent local. Et donc, si l'Alsace a des villages rouges et jaunes, c'est essentiellement dû au grès. Si l'Île-de-France et la Picardie sont marquées dans l'imaginaire par des édifices tout blancs, c'est essentiellement dû à la nature du calcaire qui est présent. Et on peut égrener la cathédrale de Clermont-Ferrand qui est toute noire, c'est à cause de la pierre de Volvic. Le fait même qu'on utilise très souvent la pierre locale, ça influe clairement sur les lignes architecturales de l'édifice. Donc en Bretagne, depuis qu'on construit, on construit essentiellement avec la roche locale. Et suivant les régions, c'est souvent du granit. Enfin, suivant les endroits de la région, c'est souvent du granit.
C'était plutôt une roche considérée comme de luxe, du coup, le granit ? Ou parce que sinon, il y avait aussi le tout-venant. Enfin, il y a beaucoup de maisons qui sont construites en un peu tout ce qu'on trouvait. Des maisons simples, je veux dire.
Disons que les maisons simples en pierre sont en granit quand le sous-sol local est en granit. Alors après, vous avez en effet pour les habitats luxueux, vous avez de l'exportation de granit. Si vous prenez le cas de la cathédrale de Tréguier, à l'époque romane, on va dire au 12e voire début du 13e siècle, elle est essentiellement construite dans un tuf local, et pour toutes les parties du 14e et du 15e siècle, elle est essentiellement construite en granit de l'île Grande, qui pouvait venir par bateau. Et donc, en effet, la granite peut s'avérer une roche luxueuse et être exportée. Mais souvent, quand même, on prend le granite proximal, même pour l'habitat paysan. La seule grande différence, et c'est pas tellement la nature du matériau, c'est la nature de la taille. C'est-à-dire que pour les bâtiments prestigieux, manoirs, églises et autres, c'est souvent de la belle pierre de taille, tandis que pour les maisons, modestes, ce sera plutôt du moellon.
Vous évoquiez les exportations dans votre séminaire, vous allez aussi faire un tour plus dans le centre de la France, en l'occurrence, voir d'autres granites. Alors comment ça se passait ? Est-ce que c'était très différent déjà de l'Ouest ?
C'est justement le but du séminaire, de voir si c'est très différent ou pas. Il faut savoir que la différence entre un séminaire et un colloque ou une journée d'études, c'est que dans le séminaire, vous présentez des hypothèses de travail, vous présentez des observations, mais vous ne proposez pas de conclusion, si vous voulez. Vous donnez un exemple à la réflexion du public et des spécialistes présents, et l'intérêt du séminaire, c'est tant les interventions que les discussions qui naissent des interventions. Donc on attend de voir ce que va dire notre collègue Thomas Cressen sur les exemples du Limousin, pour voir si justement, on voit chez eux des choses qui ressemblent à chez nous. Des phénomènes qui sont semblables. Alors, on a quand même, quand on propose un tel programme, on a quand même des idées, en effet, de rapprochement.
Surtout si on voit la troisième thématique, l'acculturation des granitiers bretons à la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'en gros, les granitiers bretons ont été confrontés sans doute à d'autres pratiques ou d'autres techniques et ils ont fait évoluer les leurs, c'est ça ?
Oui, notre collègue Jean-Marie Gulet, je ne sais pas exactement ce que va être la teneur de son propos, ce que j'en devine de ma connaissance du Canantais, c'est que au XVe siècle, parce que c'est la période qui l'intéresse le plus, il y a énormément de Bretons des côtes nord qui émigrent et qui travaillent sur les grands chantiers nantais. Sur les grands chantiers nantais, il s'avère qu'on utilise généralement dans les parties basses des édifices du granit et dans les parties moyennes et supérieures des édifices du tuffeau. Et donc ces granitiers et sculpteurs sont amenés certainement à travailler dans différents matériaux et être confrontés à des matériaux plus tendres, à grains plus fins. Et donc, ce qui sera très intéressant dans son intervention, je pense, c'est de confronter en un même lieu, à une même époque, eh bien, le résultat obtenu en travaillant des pierres dures comme le granit et grenues, et des pierres tendres à grain fin comme le tuffeau.
Ce séminaire, c'est apparemment le premier volet d'une suite, d'une série. Vous allez continuer en fait à vous intéresser au granit, aux matériaux, à ce matériau-là. Vous allez changer de matériau. Comment ça va se passer la suite?
Alors, on va proposer une thématique annuelle. Il y a plein de sujets possibles. Il y a des questions de métrologie, c'est-à-dire des questions de mesure. Il y a les questions d'épure, de présence sur les blocs. Il y a des questions purement archéologiques qu'on pourrait soulever, comme comment étudier les bilapidaires. Il y a des questions d'anastylose, comment à partir des lapidaires reconstituer les édifices disparus. On pourrait également aborder d'autres matériaux. En fait, tout cela, disons que le programme des autres années n'est évidemment pas encore fixé, mais en réalité, vous voyez, y a, la question de matériaux est importante quand on s'intéresse à l'architecture et au mobilier lapidaire, et en fait, il y en a bien d'autres. Matériaux, techniques, mesures, dimensions, reconstitution, traitement, conservation du mobilier lapidaire, toutes ces questions méritent d'être soulevées parce que, eh bien, on se rend compte que dans le monde de la recherche actuellement et dans le monde de l'archéologie, eh bien, il y a des pratiques diverses et différentes manières d'utiliser ce mobilier que finalement chaque chercheur est amené à inventer sa propre méthode, souvent. Et donc la mise en commun des réflexions est d'autant plus nécessaire.